Retour à questions d'actualité sur les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier et on va vous parler de Révolution française qui a été, vous le savez, une période extrêmement mouvementée dans la France de la fin du 18e siècle. Ses effets se sont fait ressentir dans le monde entier pendant très longtemps après. Un des épisodes tragiques qui a ponctué ces années a été la décapitation du roi Louis XVI le 21 janvier 1793, soit il y a 228 ans jour pour jour. Là aussi, conséquences incalculables. On s'est même par ailleurs posé la question de sa canonisation à l'exemple de celle de Nicolas II de Russie, tué avec sa famille en 1918. Le point avec mon chroniqueur Benjamin Boivin, candidat à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Bonjour Benjamin.
Bonjour Jean-Philippe, vous allez bien?
Oui, et vous?
Oui, ça va pas mal.
Tant mieux. C'est un anniversaire. Je crois qu'on sera la seule émission au Québec à parler de la décapitation de Louis XVI.
C'est possible, en effet.
Donc voilà, si on en parle, c'est que c'est pas juste quelqu'un qu'on a décapité, c'est un roi de France, c'est pas rien.
Non, tout à fait, la décapitation de Louis XVI constitue en soi un régicide, c'est-à-dire l'assassinat d'un roi, d'un souverain monarchique. Puis c'est également un acte politique là, qui a changé le cours de l'histoire mondiale en fait. Donc, le 21 janvier 1793, trois ans environ après le début de la Révolution, Louis XVI est guillotiné sur la place de la Révolution, puis avec lui, en fait, s'effondre 800 ans de tradition capétienne, 800 ans de tradition monarchique, d'une continuité dynastique sans précédent en Europe.
Et puis, capétienne, en fait, c'est d'après Hugues Capet sur le 7e, 8e siècle?
Oui, tout à fait. C'est Hugues Capet qui inaugure une dynastie dont la continuité est sans égale en Europe. Et puis par la suite, de l'assassinat de Louis XVI, en fait, on entre une nouvelle période de discontinuité, d'instabilité institutionnelle qui va durer plus d'un siècle.
Il n'y avait pas eu une nouvelle dynastie, les Valois, ou il n'y avait pas d'autres rois qui ont ponctué la dynastie capétienne?
À l'intérieur de la dynastie capétienne, il y a eu un certain nombre de branches cadettes à mesure que le temps est passé. Il y a eu les Capétiens directs, les Valois, les Bourbons, et puis il y a eu même les Orléans, en fait.
Ah, mon Dieu, ça fait du monde, là, oui. Pourquoi est-ce que les révolutionnaires ont voulu décapiter le roi? Parce qu'il était bien aimé, pourtant, par le peuple.
Le roi, initialement, était relativement bien aimé par le peuple. Puis, en fait, au début de la Révolution française, l'objectif des révolutionnaires là, qui se sont constitués en Assemblée nationale, il n'était pas nécessairement de mettre un terme à la monarchie, mais plutôt d'établir une monarchie constitutionnelle, notamment inspirée de ce qui se faisait déjà à l'époque en Angleterre. Mm-hmm. Mais les choses ne se sont pas passées nécessairement comme prévu. Parce qu'à partir d'un certain point, Louis XVI a commencé à être perçu comme une menace pour les objectifs de la Révolution. On a commencé à l'accuser de chercher à fomenter, enfin, la guerre contre l'armée révolutionnaire française. Et puis les autres monarchies absolues qu'il y avait en Europe centrale, notamment en Autriche.
Je pense que Marie-Antoinette, sa femme, a joué un rôle clé dans tout ce processus de trahison ou de suspicion aussi, je pense, non?
Oui, tout à fait. Marie-Antoinette qui était d'Autriche, et puis qu'on appelait l'Autrichienne là, au début du sentiment national français, qui n'existait pas tant que ça auparavant.
Remettons un petit peu un contexte donc, de la Révolution. Une Révolution n'arrive pas comme en criant en ciseaux.
Non, vous avez parfaitement raison. Louis XVI hérite à l'âge de 19 ans d'un royaume qui est à tout fait pratique sur le bord de la banqueroute, là, qui est profondément endetté, notamment par les grandes entreprises guerrières de ses deux prédécesseurs, Louis XIV et Louis XV. Mm-hmm. Qui, dans le cas particulier de Louis XV, on s'en souviendra par la guerre de conquête, a été un échec lamentable et qui, par la suite, s'est ruiné dans une tentative de vengeance contre les Anglais en finançant et puis en soutenant les Américains dans leur révolution.
Alors qu'il aurait pu très bien soutenir, il aurait peut-être pu soutenir déjà la colonie canadienne en 1759, au lieu de s'en prendre un peu trop tard.
C'est ce qu'on pourrait dire, nous qui sommes Québécois et qui regardons ça du haut de l'histoire, mais bon, les choses sont parfois difficiles à prévoir. Mais bon, Louis XV avait ruiné le royaume, et puis Louis XVI n'était pas particulièrement habile, il était plutôt jeune, mais il était intéressé à faire des réformes. Puis il s'était entouré de ministres capables d'organiser des transformations sociales, mais il a rencontré beaucoup de résistance, notamment de la part de la noblesse et puis du clergé, qui étaient les grands bénéficiaires de l'ancien régime, jusqu'au point où il a choisi de convoquer les États généraux pour la première fois en près de 150 ans.
Pardonnez-moi, vous parlez de noblesse et de clergé. Il faut comprendre que la France de monarchique de l'ancien régime était divisée en trois, comme beaucoup de sociétés traditionnelles. Il y avait le clergé qui s'occupait de l'impôt de la prière, la noblesse c'était l'impôt du sang dans les guerres, et le peuple qui comprenait la bourgeoisie, qui c'était l'impôt, mais l'impôt des espèces sonnantes et trébuchantes pour faire fonctionner le royaume. C'était les trois grandes... Dénomination.
Oui, vous avez raison. Mais de façon intéressante, à la fin de la période des Bourbons, lorsque Louis XVI devient roi, la noblesse est complètement privée de ses aptitudes militaires, là, puis a été corsetée, en fait, à Versailles. Et puis le tiers-État est davantage dirigé par une espèce de bourgeoisie professionnelle montante dans les grandes cités comme Paris.
Mm-hmm. Et les États généraux, c'est une façon aussi, ça date du 14e siècle, je pense, c'était une façon pour le roi de convoquer les représentants des grandes forces de la nation pour que tout le monde dise amen, lui donne un feu vert pour qu'il fasse ses politiques. C'est une façon d'avoir une légitimité un peu plus générale que le seul droit divin.
Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Puis les États généraux, d'une certaine manière, sont une forme d'ancêtre du parlementarisme moderne, mais ne se réunissaient pas à fréquence régulière. Ils étaient réunis par le roi, à la demande du roi, en raison de circonstances exceptionnelles. Ils avaient été réunis avant, plus d'un siècle auparavant, dans le contexte de la guerre de religion. Et puis là, en fait, c'est une question fiscale qui les réunissait parce que le roi avait besoin de nouvelles ressources économiques pour faire des réformes, pour répondre à la situation un peu difficile dans laquelle se trouvaient les finances du royaume.
Oui, les derniers états généraux, c'était en 1614-1615, on est bien avant 1789. Au total, dans l'histoire, il y a eu 33 états généraux, je pense, en France. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe pour... Alors, Louis XVI veut faire des réformes, blocage du côté des privilégiés du régime en général, donc noblesse-clergé, haute noblesse certainement et haut clergé très assurément. Les bourgeois, donc du tiers-état, donc... l'énorme masse qui fait à peu près quoi 90% de la France, comment ils réagissent?
Ils réagissent les États généraux fonctionnaient de manière un peu particulière. Les trois quarts de l'État votaient à une voix. Donc, il y avait une voix pour la noblesse, une voix pour le clergé, voix pour le tiers-État. Puis, évidemment, c'était pas du tout représentatif en termes de nombre d'individus qui étaient réunis aux États généraux. Puis, devant une certaine consternation, une irritation dans l'incapacité d'agir de la clergé et puis de la noblesse, le tiers-État s'est constitué en Assemblée nationale. Puis, s'est proclamé, finalement, comme une forme de parlement dont les ambitions révolutionnaires, au départ, étaient relativement modérées. Là, on voulait établir une constitution en France pour régulariser les rapports entre le peuple et puis la monarchie.
Mais là, Louis XVI et sa femme se comportent un peu de façon louche et la suspicion augmente et les passions françaises prennent le dessus.
Oui, tout à fait. Mais bon, au départ, Louis XVI accepte. Il se fait même appeler roi des Français. Là. C'est l'établissement pour la première fois dans l'histoire de l'Europe d'une monarchie populaire. Mais bon... Comme vous l'avez dit, il y a eu ces inquiétudes par rapport aux relations entre Louis XVI et Marie-Antoinette et puis c'est leur proche autrichien. Et puis, en fait, Louis XVI et Marie-Antoinette ont même cherché à quitter le royaume, ce qui a éveillé une frustration populaire à leur égard. Et puis, rapidement, après ça, là, les affaires ont déboulé. Et puis, l'objectif d'abolir la monarchie s'est mis en place. Et puis, le régime monarchique a été remplacé par la Première République dans sa première forme, qui était une convention nationale.
Qui durera jusqu'en 1704, qui durera quelques années, mais pas autant que la Troisième République ou la Cinquième, évidemment, d'aujourd'hui. Il va être condamné à la décapitation sa décapitation, forcément, quoi, un mois à peu près avant?
Oui, mais c'est ça. Il est condamné justement par cette nouvelle convention nationale qui, en tant que Parlement, se donne l'autorité de, premièrement, condamner Louis XVI. Il devrait être coupable, finalement, de chefs d'accusation essentiellement relatifs à de la corruption et puis de des actions qui pourraient mettre en péril la sécurité de la Révolution. Et puis, par la suite, là, le processus déboule assez rapidement. Il y a un vote qui est tenu à la Convention nationale pour déterminer de sa sentence. Et puis, à une majorité qui est claire et puis qui est saine, mais qui n'est pas nécessairement aussi flamboyante qu'on pourrait se l'imaginer, les membres de la Convention nationale condamnent Louis XVI à mort. Et puis cet événement-là est un événement historique dont tout le monde se souvient. Les grands personnages de la Révolution qui ont voté la mort de Louis XVI, on se souvient d'eux. Ce sont Danton, Robespierre, ce sont Marat, c'est aussi Camille Desmoulins, mais c'est aussi, de façon intéressante, un dénommé Philippe Égalité, qui est un ancien noble très proche de Louis XVI d'un point de vue familial.
Ah bon, Philippe Égalité vote pour quelqu'un qui lui est proche du même sang et du même qui est de la maison d'Orléans.
Oui, tout à fait. Philippe Égalité, en fait, c'est Louis-Philippe d'Orléans. Là, c'est le chef d'une branche cadette de la dynastie capétienne, la branche d'Orléans, qui est de la très haute noblesse. Et puis, il se trouve des affinités rapidement après le début de la Révolution avec les valeurs de la République. change son nom, devient Philippe Égalité, et puis vote la mort de son cousin éloigné, Louis XVI. Et puis, de façon ironique et tout à fait intéressante, c'est le fils de Philippe Égalité, Louis-Philippe, qui deviendra plusieurs années plus tard roi des Français à nouveau, après avoir renversé la seconde restauration pour établir une monarchie libérale.
Duplessis parlerait de vire capot. Dans ce contexte-là. Benjamin Boivin, on parle de la décapitation de Louis XVI. Il a 228 ans exactement, le 21 janvier 1793. Les conséquences de, si on en parle encore aujourd'hui, vous et moi, c'est que ben, c'est pas un acte anodin, c'est pas un événement qui est resté isolé. Il y a eu, c'était comme une bombe atomique.
Avec la Révolution française, avec la décapitation de Louis XVI, on entre dans ce qu'on appelle l'époque contemporaine. C'est la fin des temps modernes, c'est le début d'une nouvelle époque, d'une nouvelle ère. Toutes les grandes fractures politique et sociale de l'Europe du 19e siècle et puis du 20e siècle se fondent dans cet acte-là. Parce qu'en fait, à la suite de cette décision-là, les grandes monarchies européennes, là, on a beaucoup parlé de l'Autriche, mais il y en a d'autres, les Anglais se sont pas mal inquiétés aussi, elles se crispent en fait contre les idéaux révolutionnaires, le nationalisme et puis le républicanisme. Et puis c'est sur la base de cette fracture-là que vont s'organiser les grands conflits européens du 19e siècle.
Puis, uniquement 19e siècle ou encore aujourd'hui?
Ben, on pourrait même parler jusqu'à à la Première Guerre mondiale, puis évidemment, bon, on peut faire des liens indéfinis, là, mais il y a beaucoup de choses qui datent de ça. Là. Toute l'idée de gauche et puis de droite, ça date de l'établissement du parlementarisme républicain. Mais vraiment, ce qui est important à considérer, c'est qu'à la suite de la Révolution française, il y a eu l'épopée napoléonienne, et puis à la suite de l'épopée napoléonienne, il y a eu une transformation de la carte européenne. La France est écrasé à la suite de ces guerres-là, puis en fait, par un dictat étranger, se voit rétablir la monarchie sous une forme constitutionnelle, mais c'est le frère de Louis XVI qui deviendra roi en 1815.
Et la France également, je veux dire, la France va être clivée pendant tout le 19e siècle avec ça.
Ah oui, tout à fait. En fait, là, la décapitation de Louis XVI puis l'acte révolutionnaire ordonne la fracture à l'intérieur de la France également. La France est divisée entre une partie, disons, jacobine, républicaine, moderniste, et puis une autre partie là, qui demeure considérable, qui est plutôt de la France catholique, rurale, attachée aux valeurs anciennes. Et puis cette fracture-là va vraiment faire souffrir beaucoup la vie politique française, va conduire à des changements de régime perpétuels, dans 5 républiques, 2 empires, 2 restaurations, une monarchie populaire et puis même un État fasciste.
C'est très stable. Vous avez dit le mot jacobin, ça veut dire quoi, une jacobine ou jacobin?
C'était un groupe, un des nombreux groupes révolutionnaires là, qui était particulièrement à gauche et dont l'objectif était de réunir à Paris, là, d'une manière tout à fait centralisée, l'ensemble des décisions du royaume et de faire de la République, excusez-moi, et puis de les faire descendre jusque dans la vie particulière des gens dans les campagnes. C'était vraiment idéal.
Rien n'a changé. On est en 2021, mais rien n'a changé.
La France d'aujourd'hui est républicaine et d'une certaine manière très jacobine, il n'y a pas de doute là-dessus.
C'est Paris qui dirige tout, et le reste du pays et les anciennes colonies à l'époque ne faisaient que suivre.
Oui, et puis d'ailleurs, c'est une particularité de la société française que les Américains et puis les Anglais s'amusent beaucoup, parce que c'est évidemment très différent de ce qu'on a connu ailleurs en Europe, où les sociétés étaient très très complexes, très très particulières. L'Autriche-Hongrie, l'Empire allemand, c'était des sociétés très très décentralisées, alors que la France, avec la Révolution, a été centralisée autour de Paris, avec une vision très étatiste de la manière de faire les choses.
Il nous reste 6 minutes et demie, Benjamin Boivin. On va parler du martyr, voir si Louis XVI a été un martyr ou non. Mais, petite parenthèse, le Québec, qui était devenu une province sous domination britannique, est-ce qu'au Québec, il y a eu des soubresauts? Est-ce qu'il y a eu des échos de cette Révolution française, de la décapitation de Louis XVI? Ou nous, on est restés un petit peu comme des Français améliorés, comme vous avez Duplessis?
Il y a un certain nombre d'intellectuels québécois, en particulier des grands penseurs à l'intérieur de l'Église québécoise, puis certains laïcs, qui ont vu qui voient rétrospectivement dans la conquête une récompense finalement pour la société québécoise, et puis qui s'est évité finalement avec la conquête les difficultés très laïcardes et puis très anticléricales de la Révolution française. Mais c'est certain que les Québécois ont toujours été plutôt dociles puis favorables à l'ordre établi.
D'accord, donc pas trop de d'écho donc de cette décapitation et de la Révolution française.
Oui. Il y a eu certainement des républicains, on se souvient des patriotes qui se sont inspirés des idées révolutionnaires, mais souvent plutôt américains en fait que français, quoique bien nombreux d'entre eux étaient influencés par ce qui s'est fait en France également.
Louis XVI était-il martyr ? Évidemment, beaucoup de gens ont voulu qu'il soit reconnu martyr, ensuite canonisé, et ça n'a pas abouti, non ?
Oui, mais la fille de Louis XVI, Marie-Thérèse de France, qui était Madame Royale, militait activement auprès de Rome pour la canonisation de son père. Mais en définitive, ça ne s'est pas fait. Puis les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait, c'est parce que l'assassinat de Louis XVI, le régicide de Louis XVI, n'était pas perçu comme étant véritablement fondé sur des motifs religieux, mais plutôt des motifs politiques. Puis, en raison de ça, Louis XVI, finalement, sa mort ne rentre pas dans les catégories habituelles du martyr. Et puis, pour cette raison-là, l'Église s'est abstenue, surtout en raison du caractère très controversé de son règne à mesure que le 19e siècle avançait.
Même si la France avait ce titre de fille aînée de l'Église, donc le roi de la France serait le roi de la fille aînée de l'Église, ça lui aurait pas donné, ça aurait pas fait avancer le dossier un peu plus haut sur la pile des canonisations?
Il faudrait discuter avec ça, avec la haute curie romaine, mais manifestement, ça s'est pas fait.
J'avais évoqué en introduction un autre, le tsar Nicolas II de Russie qui a été tué d'un coup de pistolet, lui et sa femme et ses enfants, en 1918, pendant la révolution soviétique, bolchevique, pardon. Lui a été canonisé par les orthodoxes. Il n'y a pas un parallèle à faire là ou pas?
Oui, de toute façon, tout à fait intéressant. Nicolas II et puis toute sa famille, en fait, ont été canonisés en 2000, là, un peu moins de 100 ans après leur assassinat, par l'orthodoxie russe, l'Église orthodoxe russe qui est dans un monde d'une manière complètement séparée de l'Église catholique. Il n'y a pas de relation officielle entre ces deux institutions-là. Puis l'Église orthodoxe russe les a canonisés, non pas comme des martyrs, mais plutôt comme des porteurs de passion. Et puis porteur de passion, c'est un titre de canonisation qui est propre à l'orthodoxie, qui n'existe pas véritablement dans le christianisme latin. Puis ça désigne pas des personnes qui ont été tuées en raison de leur foi en particulier, mais pas du tout des personnes qui ont vécu la mort à la manière du Christ, puis avec une dignité religieuse particulière. Et puis l'Église orthodoxe russe a jugé que c'était le cas de Nicolas II et puis de sa famille, qui par ailleurs ont été assassinés par des révolutionnaires profondément athées, dont l'objectif était d'établir un État qui abolirait toute forme de pratique religieuse.
Nous évoquons donc les 228 ans de la décapitation de Louis XVI le 21 janvier, donc jour pour jour, 228 ans, le 21 janvier 1793. Vous nous avez illustré à grands traits, évidemment, parce que le temps nous manque, mais toutes les conséquences, même d'aujourd'hui, si vous voulez, indirectes, de cet acte. Un régicide, je sais que les Anglais avaient eu la révolution avec Cromwell le siècle précédent, au XVIIe siècle. Les conséquences n'avaient pas été aussi tapageuses que celles de Louis XVI. Mais quand on tue un roi, j'ai l'impression que la pièce d'échecs, vous savez, le jeu d'échecs ne tient qu'à l'existence du roi. Quand le roi tombe, le jeu est fini. J'ai l'impression qu'on a un événement tellurique d'une force inouïe quand on tue un roi.
Ah oui, c'est vraiment probablement la chose la plus terrible qui puisse arriver dans une société politique. Et vous évoquez l'exemple de la glorieuse révolution anglaise. L'assassinat du monarque en Angleterre s'est soldé éventuellement à la suite de l'expérience cromwellienne par le rétablissement d'une monarchie dans une forme constitutionnelle qui est en fait l'inspiration de la plupart des régimes parlementaires dans le monde aujourd'hui, qu'ils soient monarchiques ou républicains. Donc, les conséquences, en fait, de la glorieuse évolution anglaise sont également très importantes, mais simplement moins violentes puis troublantes. Il semble que les Anglais aient réussi à trouver une solution plus tolérable pour l'ensemble de la société aux problèmes qu'ils ont confrontés.
Diriez-vous, pour finir en une minute, Benjamin Boivin, que aujourd'hui les plaies se sont légèrement refermées, cautérisées, j'ai l'impression que ce conflit ressurgit d'une façon ou d'une autre, mais avec d'autres étiquettes?
D'une certaine manière, oui. Mais donc, depuis l'intervention du pape au début du 19e siècle, du pape Léon XIII, qui a donné son soutien à la République, les monarchistes en France sont profondément affadis, et puis la République a été acceptée par la très grande majorité des gens. Il demeure un certain nombre de monarchistes ou de royalistes en France aujourd'hui. Il y a également des prétendants bourbons et puis des prétendants orléans. Mais la question du régime ne se pose plus en France de la même manière qu'il se posait auparavant. Mais les fractures idéologiques entre la gauche et la droite recoupent souvent des divisions qui auparavant se faisaient sur la question du régime monarchique ou républicain.
Benjamin Boivin, vous nous offrez un vrai cours d'histoire. On va devoir réécouter cette entrevue sur les ondes de Radio VM, radiovm.com, ou sinon cet après-midi vers les 17h20. Merci infiniment pour ces propos sur la décapitation de Louis XVI il y a 228 ans exactement, le 21 janvier 1793. À dans deux semaines.
À bientôt, c'est un plaisir.
Merci beaucoup, Benjamin. Voilà, c'est la fin de l'émission. Demain, nous parlons de Saint-François de Sales à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier, je vous dis merci. Je vous donne rendez-vous demain. Et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.